temps anciens, nos ancêtres se transmettaient les récits épiques de la création du monde, les aventures de fabuleux héros et de glorieuses héroïnes. Ces histoires que nous entendons depuis l'enfance et qui imprègnent notre monde font partie de nous et de notre culture. On appelle ces récits les légendes. Ce soir, trois narrateurs et forgeurs de récits vont s'affronter autour de la table en portant le titre de légendaire. Eux seuls pourront déterminer quelle histoire s'ajoutera dans notre grand livre. Il est maintenant venu le temps que s'écrive une nouvelle légende.
Bonjour à toutes et à tous. Il est temps de forger de nouvelles légendes dans Legendary. Et pour cela, je vais faire appel à ceux que l'on nomme les légendaires. Elle est une gardienne des récits les plus épiques, mais c'est aussi une aventurière virtuelle et une égyptologue amateur. Merci d'accueillir Lisor. Lisor, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à toi d'être là avec nous. Tu es parée pour nous enchanter.
J'y suis un peu en stress, comme à chaque fois que je dois raconter une histoire, mais ça va, tout va bien. Ça va bien se passer.
Ça va très bien se passer. Il est lui-même une légende, personne n'étant capable de s'accorder sur le tarif qu'il réclame pour ses interventions, mais c'est aussi un homme sur la voie du ado pour qui la frontière entre le réel et la fiction est aussi ténue qu'une frame de start-up. Merci d'accueillir TMDJC. Salut Sam.
Bonjour tout le monde.
Alors toi aussi, tu es paré, tu es prêt?
Moi, j'étais prêt depuis le numéro 1.
Ah, j'ai cru qu'il allait dire j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Je fais attention, c'est une réplique sous copyright, ça. Hein. Et puis, pour finir, c'est avec plaisir que nous recevons celui qui est désormais un ami de la maison. Il connaît les légendes des temps anciens jusqu'à nos jours, mais c'est plus particulièrement celle du 7e art dans lequel il excelle. Et il est donc tout à propos pour cette première émission. Merci d'accueillir Jazz.
Salut tout le monde. Hey. Comment on va?
Mais écoute, fort bien, et j'espère que toi aussi, et que comme tes petits camarades, tu es paré pour ces récits, ces légendes. Mais oui, chers auditeurs, carrément, peut-être que tu te demandes comment ça se passe. C'est très simple. Déjà, merci d'être là pour ce tout premier épisode de Legendary. Le principe de l'émission, il est très simple. Chacun des légendaires présents ce soir va nous raconter une histoire bien réelle, mais il aura le droit d'agrémenter cette histoire comme il le souhaite, les légendaires n'étant soumis qu'à un très faible niveau de rigueur factuelle. À la fin du tour de table, ils voteront pour définir quelle histoire ils ont préférée, sauf bien sûr la leur. En cas d'égalité, je révélerai mon vote que je ferai en secret, et nous pourrons ainsi désigner l'histoire gagnante qui rentrera dans la légende. Pour finir, celui ou celle dont l'histoire lui aura donné la victoire aura le privilège de définir le thème de la prochaine émission. Chers légendaires, avant de commencer, je voulais vous poser une simple question. Quel est votre rapport aux légendes et au fait de raconter des histoires? Et je vais tendre le micro vers Lisor pour commencer.
Alors, il y a plusieurs aspects niveau légende et histoire, parce que, bon, comme tu le sais peut-être, je suis une grande consommatrice de récits de fantasy, donc où il y a un côté, un lien assez étroit avec tout ce qui est légende au sens large, réadapté. Et puis je suis aussi bibliothécaire spécialisée jeunesse, donc parmi mes attributions, il y a accueillir les classes et leur raconter des histoires. Je fais ça toutes les semaines.
Ils ont grave de la chance.
Je suis pas sûr que ce soit le cas tout le temps, mais...
On verra. Je pense que ce soir, en tout cas, nos auditeurs, eux, auront beaucoup de chance de t'entendre.
Donc, ne vous non, mais ne, je vous préviens quand même, ne vous étonnez pas si le ton est un peu... Oh, j'ai l'habitude de m'adresser un peu aux enfants, donc c'est possible que ça a un petit peu débordé sur mon récit.
Oh, on est tous des grands enfants. Je tends mon micro vers Jazz pour la même question.
Bah pareil, j'adore, j'adore raconter les histoires. Des anecdotes sur ma vie. Et en fait, j'adore... Ce que j'adore dans les légendes, c'est toujours en rajouter. Ou s'attarder sur des détails qui sont ridicules, mais qui servent aussi, qui peuvent servir aussi à l'histoire. Et j'adore ça.
C'est génial. Moi, j'ai un peu le même rapport que toi. C'est, il faut raconter une certaine vérité, mais il faut lui donner un peu de gueule, quoi.
C'est ça. Tout à fait.
Et pour finir, TMDJC.
Écoute, c'est une excellente question. Je crois que j'ai toujours plus ou moins raconté des histoires depuis que je suis tout gamin, parce que c'est une de mes façons de m'exprimer, que ce soit à l'oral, que ce soit derrière un micro, que ce soit en bande dessinée, que ce soit à l'écrit. Et ça ne m'a jamais quitté depuis, au point même que des fois, quand je fais des podcasts qui ne nécessitent pas de mise en histoire, il m'arrive quand même de rajouter des petites scénettes, parce que je trouve ça plus agréable de passer du savoir avec un petit aspect mise en situation, explicative, via des personnages qui sont parfois totalement inventés. C'est un truc que j'aime beaucoup.
C'est mettre de l'habillage. Ok. Mais il est temps pour nos légendaires de nous raconter les récits qu'ils ont préparés et dont le thème, qui a été défini à l'avance pour ce soir, sera... l'acteur Christopher Lee, car après tout, quoi de mieux qu'une légende pour cette première assemblée des légendaires. Légendaire, la table vous est ouverte, et le sort en a décidé que Lizor sera notre première narratrice. Alors Lizor, nous parlons donc de Christopher Lee. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Bien, j'ai une petite histoire de Noël... en plein été, à propos de Sir Christopher, par une après-midi d'orage, Sir Christopher Lee, d'humeur aussi sombre que le ciel, ruminait dans sa demeure de Cadogan Square à Londres. « Ma chère guiteux, dit-il à son épouse qui s'en inquiétait, j'arrive au crépuscule de mon existence et je sens qu'il me manque quelque chose pour partir en paix. Un accomplissement qui conclurait en apothéose mon héritage. » « Mais enfin, très cher, répondit Birgit, n'avez-vous point déjà laissé votre empreinte dans la grande histoire comme dans celle des arts ? N'avez-vous point été un héros de guerre ? N'avez-vous point été l'un des acteurs les plus prolifiques de sa génération ? N'incarnez-vous point la figure du mal à l'écran ? N'en êtes-vous point la voix la plus iconique ? Il est vrai. Néanmoins, je sens qu'il me faut me lancer dans une ultime quête. » Celle qui mettra un point final à mon récit. À 90 ans. Le meilleur des âges, ma chère. Ainsi, Sir Christopher, une idée derrière la tête, partit par monts et par vaux, bravant les terribles intempéries britanniques, à la recherche d'un grand maître des tambours nommé Holly Usinskin. L'homme lui avait déjà prêté main forte lors de sa folle quête précédente, lorsqu'il était parti sur les traces de l'empereur Charlemagne. Sir Christopher savait ce compagnon fiable et à même de trouver d'autres équipiers pour mener à bien son projet. « Il en faudrait au moins deux, mon bon Holly, lui dit-il. « J'ai Edras Ramos. Ça ne fait qu'un. Senior et junior. Ce sont nos hommes. » Sir Christopher et le brave Holly se mirent alors en quête du père et du fils. Ils traversèrent les flots déchaînés de l'océan jusqu'à la lointaine contrée du Guatemala. Trouver les deux maîtres des cordes ne fut pas chose aisée. Moins encore de les convaincre de les suivre jusqu'à Albion pour mener à bien une quête sur laquelle Sir Christopher demeurait muet. Il fallut moult palabres et échanges de deniers sonnants et trébuchants pour les convaincre. Mais, enfin, notre équipe fut bientôt réunie à Cadogan Square. Alors seulement, Sir Christopher leur exposa ses plans. Mes chers amis, leur annonça-t-il, j'ai combattu les nazis pour mon pays et le protocole suédois pour épouser une noble. J'ai incarné les plus grands méchants du cinéma, de Dracula à Saruman, en passant par un dentiste pour Tim Burton. Je suis resté des années parmi les personnes les mieux habillées du monde. J'ai tout fait. Et c'est avec vous, mes chers amis, que je vais entreprendre ma dernière aventure. Celle qui scellera mon héritage. Et quelle est-elle, ô maître des ténèbres ? N'en faites pas trop, Ransfield. Moi, c'est Oli, en fait. Le projet, le voici. Les trois hommes étaient suspendus à ses lèvres. Un ultime single. Les musiciens étaient prêts. Pardon ? Douce nuit. Silent Night. Les versions Metal ! Et ainsi, avec A Heavy Metal Christmas, Sir Christopher devint le plus vieux chanteur au monde à se classer dans le top 20 des charts musicaux, concluant avec panache sa brillante carrière. Et c'est ainsi que finit ce récit.
Alors messieurs, est-ce qu'on peut déjà faire un tonnerre d'applaudissements pour notre première narratrice ? N'oubliez pas que vos micros sont coupés, messieurs.
Bravo, excellent.
C'est bon, on est paralysé.
J'oubliais ce détail parce qu'en plus j'ai coupé le micro sur mon Zoom et comme je voulais montrer qu'il était coupé, je l'ai coupé aussi, ce qui ne servait à rien sur le truc, et j'ai démuté mon Zoom mais je n'ai pas démuté le Discord, donc vous ne m'avez pas entendu applaudir chaudement.
Alors je sais que ça vous brûle les lèvres comme ça me brûle, mais gardez vos commentaires puisque c'est donc le deuxième tour qui va s'engager. C'est à Jazz de prendre le relais avec son récit que nous écoutons. Séance tenante.
Christopher Lee n'a pas été seulement Dracula ou Saruman. Non, mes amis. Christopher Lee a aussi joué des rôles plutôt obscurs, dans des nanars et films complètement fauchés. Ah, vous l'avez compris, je vais vous parler du calvaire de Christopher Lee sur le tournage de Hurlement 2.
Ma sœur est un loup-garou.
Déjà, chose importante à savoir, est-ce que vous savez comment Christopher Lee s'est retrouvé dans ce film ? Alors, ce n'est pas à cause des impôts qu'il doit payer, quoique... Non, en vrai, Christopher Lee n'avait jamais joué dans un film de loup-garou et rêvait de jouer dans ce genre de long-métrage. Et pour le prince des ténèbres qu'est l'aubaine de se battre contre un lycanthrope, et du coup, il accepta. Et voilà, lors du tournage, il voit qu'il a fait le mauvais choix. Il s'aperçoit que le réalisateur Philippe Mora ne gère pas le film. Il crise lorsqu'il entend Ray Brown jouer. En même temps, quand vous savez que la meilleure performance de l'acteur est dans Strike Commando, on comprend Christopher Lee. Il souffre de se ringardiser devant la caméra. N'oublions pas aussi qu'il porte de superbes lunettes de soleil et un sacré blouson de cuir. C'est la pire expérience, même j'en veux dire pire que celle avec Bernard Ménez. Alors, voilà. Comment dire ? L'expérience a tellement été éprouvante que, lors du tournage de Gremlins 2, Christopher Lee alla voir Joe Dante, réalisateur du premier Hurlement. C'était un mardi. Il faisait beau. Christopher s'est levé à 7h du matin, ce qui est tôt pour un vampire. Il prit un bon petit déjeuner, bien consistant, lut le journal, se lava, et prit un bain à température ambiante, ce qui est parfait pour une bonne circulation du sang. Et il partit sur les plateaux de tournage de Gremlins 2. Pendant ce temps-là, à Veracruz, Louis Morel, le chef de la police, est allé chercher une orange à l'épicerie du coin car il avait une petite faim. Ce qui est plutôt normal car il n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner parce qu'il a eu une panne de réveil. En effet, son chat avait mangé le câble de la prise. Plus de peur que de mal pour le chat prénommé Vlad, il a toujours autant d'énergie à dépenser. Il est 10h. Christopher Lee se rend donc sur le tournage. Il voit Joe Dante. Il se regarde, s'observe, s'analyse. Christopher Lee ne sait pas comment aborder le monsieur, alors que Joe Dante se demande s'il a bien fermé les gaz chez lui. Christopher s'avance et s'excuse auprès de Joe Dante. Il lui dit qu'il n'aurait pas dû jouer dans Hurlement 2. Joe Dante l'écoute et se demande si Gremlins 2 sera un succès au cinéma. Les deux hommes se serrent dans les bras. Et Christopher Lee décide de donner le meilleur de lui-même sur ce tournage. Et c'est ainsi que se termine cette histoire.
Waouh. Déjà le bravo.
Merci, merci.
On a toujours perdu Seb. Qu'est-ce...
Bah non, là, tu m'entends pas là?
Non, t'as pas... Enfin, moi je t'ai pas entendu, je sais pas les autres.
Oh. J'ai pas entendu, non, pas entendu. Je crois qu'il y a un problème avec le zoom en fait.
J'ai pas frappé assez fort.
Il y a un petit temps de latence entre. Ah ouais, oui, il faut remettre le micro pour qu'on.
Ouais. Alors, je pense.
Normalement, non, ça ne va pas du tout. Je suis tristesse infinie.
Je pense qu'en fait, tu dois avoir le truc de Discord qui régule l'audio, qui neutralise les clap-clap. On a souvent problème sur bas gros points.
C'est possible.
Là encore, je vous demanderai de taire vos impressions, vos commentaires, puisque ce sera lors de la prochaine séquence de tour de table. Mais avant d'en arriver là, nous avons un dernier récit à entendre. Légendaire TMDJC, prenez place au promontoire et dissertez.
Bien, merci beaucoup de me laisser le micro. Alors déjà, je tiens à dire que moi, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à écouter les... Mes pères, j'ai envie de dire. Moi, je vais pas vous la faire en mode lecture, parce que je vais vous la faire en mode podcaster. Je vais vous raconter un petit peu une histoire méconnue de Christopher Lee. Alors, il faut savoir que lorsque tu nous as proposé Christopher Lee comme sujet, j'ai cherché pour trouver une anecdote qui n'était pas connue. Ce qui n'a pas été simple parce qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes assez connues sur l'animal. Hein. Christopher Lee, ça reste quand même un monstre de cinéma sous plein d'aspects. Moi, je vais essayer d'axer mon récit sur le fait qu'à certains moments, il ait été pris pour un vampire. Il a joué dans Dracula, ça tout le monde le sait. Mais il y a plein de moments, effectivement, les gens ont commencé à confondre fiction et réalité. Et je voudrais m'appuyer un petit peu là-dessus. Alors, je rappellerai quand même que le bonhomme est né en mai 1922. Donc, lorsqu'il a entamé sa carrière cinématographique, il était à la fois jeune, mais pas tant que ça, finalement. Et lorsqu'il est arrivé dans son rôle de Dracula, qui est vraiment le rôle qu'il a révélé, on est déjà en 57, donc il a déjà eu d'autres rôles. Hein. Il a commencé sa carrière dans les années 40, donc c'est quelqu'un qui avait une carrière avant, mais c'est vraiment l'œuvre qui l'a révélé. Mais alors la question, c'est comment est-ce qu'il a préparé ce rôle, comment est-ce qu'il a été amené à décrocher ce contrat, et là, certainement la question la plus intéressante de tout, c'est pourquoi Christopher Lee. J'ai envie de vous dire que s'il n'avait pas lu, ça aurait été très compliqué pour lui de s'imprégner de la teneur du scénario. Ça, c'est une réponse évidente, mais c'est important de le rappeler. Et donc, s'il est arrivé à travailler sur Dracula, c'est qu'il a adoré le bouquin de Bram Stoker. Alors le film s'en éloigne évidemment radicalement, mais pour autant c'est quelque chose qui a été très important pour lui. Et pour travailler ce rôle, et c'est là où ça devient intéressant, en fait, il a été bossé avec un professionnel des vampires. Alors, quand je dis professionnel des vampires, c'est quelqu'un qui disait réellement les avoir étudiés. Et donc, il a travaillé avec Monsieur André. Alors, Monsieur André, qui était parfois appelé Monsieur Amendo, en fait, est donc une personnalité assez forte dans le milieu de l'ésotérisme. Alors après, on croit, on ne croit pas à ce genre de choses. Ça, c'est un autre détail. Mais en tout cas, Christopher Lee trouvait que c'était quelqu'un qui comptait bien les vampires. En tout cas, pour Monsieur André, les vampires étaient quelque chose de réel, donc vraiment pas une blague. Donc il a énormément bossé avec lui sur les codes des vampires, qu'est-ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Alors évidemment, Dracula reste une œuvre de fiction, on est d'accord, donc on se permet quelques écarts avec, vous ne voyez pas les R guillemets, mais la réalité. Et alors, il faut savoir que M. André avait déjà eu l'occasion de bosser avec un autre acteur qui, plus tard, est devenu, je crois que c'est au cours des années 70 ou 80, si ma mémoire ne fait pas défaut, un musicos assez connu dans le milieu du rock FM, M. Lestat de Lioncourt. Ils ont eu l'occasion de bosser ensemble sur un personnage justement qui était un petit peu un personnage vampirique. Il montait sur scène avec une fan qui se faisait appeler la reine des damnés, enfin un truc assez folklorique là encore. Et donc c'est avec ces deux personnes qu'il a bossé donc son rôle de Dracula. Alors, suite à tout le travail qui a été fait, parce que Dracula, il l'a vraiment incarné plusieurs fois, en fait, pour de vrai, Christopher. Et suite à ce rôle-là, qu'il avait pris probablement un petit peu trop au sérieux. Alors, certaines personnes déjà disaient à l'époque que c'était un véritable vampire. D'autres disent qu'il s'est fait tout simplement poser des implants. Le fait est que un long moment, Christopher Lee a eu les dents relativement longues, les canines qui étaient quand même bien aiguisées. Et si certains disent qu'il a si bien incarné son rôle de dentiste auprès de Johnny Depp, c'est surtout en fait qu'il a passé beaucoup de temps là-bas pour essayer un petit peu justement de limiter et de limer au maximum ces canines de manière à ce que ça ne se voit pas trop. Et ça, ça fait partie des choses qui ont alimenté la légende, c'est que régulièrement les canines poussaient de nouveau. Alors certains parlent de maladie, il y a eu beaucoup de oui-dire là-dessus. Le fait est que lui s'est retiré un petit peu du milieu du cinéma à ce moment-là. Il y en a qui disent que il trouvait plus de rôle à son pied, pas du tout. C'est juste en fait qu'il est parti dans le milieu de la science pour justement régler ce problème de canine. Milieu de la science en fait qui l'a aidé pour un rôle, hein, parce qu'on a eu l'occasion de le voir dans Gremlins 2, ça vient tout simplement de là. En fait, c'est tout le travail qu'il a fait autour de plusieurs expériences justement pour régler cette problématique-là. Et en fait, il a fini par trouver une solution à son problème très très loin du milieu de la science, parce qu'en fait, là encore, il est reparti un petit peu dans le monde de l'ésotérisme. Il a eu l'occasion de bosser avec un mec qui s'appelle Olorin, qui est un gars qui l'a beaucoup aidé dans justement le travail de repli sur soi, vraiment d'introspection. Il va vraiment travailler avec ce que les gens vont appeler la force, hein, finalement, donc de manière vraiment à canaliser son énergie. Et malheureusement, ça ne se passera pas vraiment comme Christopher l'aurait souhaité, puisque il était à une période de sa vie où il se cherchait beaucoup, et des choses très obscures finalement vont le rattraper. Et malgré toute la bienveillance des gens qui étaient autour de lui, en fait il s'est complètement paumé. Alors c'est une époque où il bossait pas mal d'euros. Il a eu l'occasion de bosser avec un mec qui était vraiment un bretteur exceptionnel, donc qui a beaucoup travaillé en fait les armes blanches d'ailleurs en général, dans une école de mémoire qui s'appelle Cours-le-Ciel, je crois, de mémoire. Et c'est au cours d'un exercice où il se passera une chose dramatique, puisque Christopher Lee se fera décapiter tout simplement lors d'une joute entre les deux hommes. C'est une anecdote qui est, donc, je le disais, très peu connue, puisque de toute façon la femme de Christopher a demandé tout simplement en fait qu'on n'ébruite pas cette partie-là, de manière à ne pas ternir l'image de ce géant vraiment du cinéma. Et je ne peux que la comprendre. Alors aujourd'hui, certaines personnes diraient que si on sait ces choses-là, c'est parce que le complotisme, tout ça. J'ai envie de vous dire, quid de la légende finalement ou de la réalité? En tout cas, c'est ainsi que se finit ce récit.
Ouais, merci et bravo.
Excellent.
Ah, t'as une bonne cliente là. Alors, chers légendaires, nous avons entendu vos récits. Il va être le temps de se retirer, de prendre un instant de réflexion pour choisir quel récit.
C'est tellement dur ce que tu demandes.
Et oui, je sais.
On ne peut pas faire comme à l'école des fans, parce que moi, j'ai pris du plaisir pour les deux. Du coup, c'est dur.
Alors, nous allons faire une pause et nous allons aborder ce point. Donc, chers auditeurs, nous, on va prendre ce temps. Mais pour vous, c'est le temps d'un jingle. Nous sommes de retour pour la suite de Legendary et nos légendaires ont fait leur vote pour choisir quel est le récit qu'ils ont préféré parmi les trois qui ont été présentés ce soir. Je ne vais pas faire durer le suspense, même si je pourrais, parce que finalement, dans un récit, le suspense, est-ce que ce n'est pas l'arme ultime du narrateur afin de garder son audience et un peu de la torturer, mais pour le bien de sa satisfaction quand il entendra la révélation, celle qu'il attend de tout cœur et qu'il ne sait pas jusqu'où il va le mener. Peut-être que son narrateur le piège, peut-être que tout est évident. C'est très difficile à définir, vous savez, mais c'est ça aussi qui fait un bon récit. Bon allez, je n'en fais pas plus, je vous libère. Pour cette première édition de Legendary, le légendaire qui l'emporte, c'est Lizor.
Ouais,
ah bah merci.
Voilà, Lizor, tu es tu es historique et légendaire puisque tu es la première légendaire à mettre son récit dans la légende. Et
Non mais là vous me voyez pas, mais je suis en train je suis rouge pivoine.
C'est pas grave, c'est très joli comme couleur.
Bah merci.
Bah c'est nous qui te remercions pour
carrément
pour ton récit, messieurs. Bah peut-être justement nous dire un peu ce qui a fait pencher la balance, et puis nous dire aussi ce que vous avez pensé de l'autre récit. Sachant que je me permets de le dire à nos auditeurs, ça a été un vote de haute technicité, car pendant un bon bout de temps. On a essayé de me corrompre pour que... Oui, mais alors, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a des demi-points de machin? Non, la victoire.
L'école des fans.
Voilà, j'ai entendu ces mots-là, j'ai fait non. Vous savez, il faut respecter les légendes. Donc, non, il faut que ça soit tranché.
Donc, je peux commencer parce que je sais exactement moi qu'est-ce qui a fait pencher mon vote en la faveur de Lizor, parce que je vais pas spécialement que j'ai envie de faire l'école des fans, parce que c'est pas le cas. Les gens qui me connaissent un petit peu dans le milieu du podcast savent que même si je me considère comme quelqu'un de plutôt bienveillant, quand j'aime quelque chose ou que j'aime pas quelque chose, je sais exprimer mes arguments de part et d'autre. Mais là, ça a été très difficile pour moi de jouer, parce que c'était les deux ont apporté quelque chose de différent. Il y avait quand même un point commun qui était le mode de lecture finalement du récit, et je me suis laissé embarquer vraiment des deux côtés, et j'avais l'impression en plus qu'on me parlait pas forcément de la même personne, mais j'ai vraiment vécu deux situations différentes. Et ce qui a fait vraiment pencher la balance, quand je me suis dit mais du coup il faut que je fasse un choix, qu'est-ce que je fais, moi ça a été la fin du récit de Lizor. Et quand elle a commencé à entamer sa grosse voix de hard rock, ça m'a fait mourir de rire qu'on n'a pas entendu, parce que posément l'indication à juste titre a été de nous faire couper les micros, mais quand je t'ai entendu ça m'a fait ultra marrer. Donc c'est ce qui a fait totalement pencher la balance, et heureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon je ne sais pas pour qui j'aurais voté.
Et ton avis sur l'histoire de Jazz, peut-être, si t'as des choses à ajouter?
Ah bah, comme je disais, hein, les deux vraiment m'ont transporté, m'ont emporté. Moi, c'est un des arguments qui allait dans le sens de Jazz, c'est que il s'est passé quelque chose entre un chat et d'électricité, et ça, c'est très drôle. Je ne vais pas vous le cacher. Donc voilà. Peut-être s'il y avait eu un miaou imité, ça aurait complexifié mon choix. Mais j'avoue que c'est pareil, ce moment-là m'a bien emmené.
Ah, ça tient à pas grand-chose.
Là vraiment. Alors quand je te dis que ça tenait à pas grand-chose, je plaisante pas. C'est que quand t'as dit il faut faire un choix, j'étais vraiment emmerdé pour de vrai.
Pareil. Ça c'est clair.
Alors Jazz, du coup. Ton avis à toi, déjà donc sur le récit de Lizor qui l'emporte.
Ah bah, moi j'ai été captivé parce que j'ai adoré les imitations déjà. En fait, ce qui était énorme, c'est que on rentrait vraiment dans l'histoire. C'est, je me suis vraiment imaginé le paysage comme un conte. Et du coup, j'étais vraiment dans l'histoire et avec les imitations. Et j'avoue aussi que quand tu as pris ta grosse voix, je n'étais pas prêt en fait. et j'ai explosé de rire. Et là, je me suis dit, waouh, ok, d'accord, il y a du level là.
Et pour l'histoire de TMDJC, un petit retour?
Bah, pareil, c'était un peu compliqué parce que à choisir, pareil, parce que on rentre dans l'histoire et puis MDJC, il a l'art, c'est-à-dire qu'en fait, on sait pas si l'anecdote elle est vraie ou pas, et en fait, petit à petit, quand on écoute, on se dit waouh, non, mais c'est vraiment ça, et en fait, on rentre vraiment dans l'histoire et on se dit waouh, et puis il y a tellement une facilité de parole, et il peut nous raconter, il peut même nous vendre un tapis à 10 balles, et là, on se dit, mais c'est génial quoi, c'est
incroyable!
Voilà, c'est incroyable ce qu'il arrive à nous faire gober, non, c'est énorme, ouais, c'était très très compliqué quoi.
Lizor, certes tu l'emportes, mais tes co-légendaires n'ont pas démérité. Est-ce que t'as un petit avis à nous faire sur leur récit justement?
Ah, là on avait deux types d'histoires très très différentes, donc c'était un crève-cœur de trancher aussi. alors, celle de Dia, j'ai beaucoup aimé, bah, déjà le ton, la façon de raconter. C'est clair. Ouais, et puis bon, moi, le coup du chat aussi, moi c'est pareil, j'ai explosé rien. Toujours mettre un chat dans une histoire, c'est vrai, il faut y penser. Et la façon d'amener en fait, en plus, ce genre d'élément, c'est, tu t'y attends pas forcément, t'es pris dans le récit, puis d'un coup, je touque. Ah, ça
peut être à chaque fois. Non, mais j'ai bien aimé qu'il rajoute aussi les dates. C'est, on était samedi matin.
Mais oui, les petits détails qui parsemaient le récit comme ça. Et TMDJC, après, c'était le ton vraiment. Tu entraînes. Et puis, moi, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Attends. Non, si, non. Oh là là, je sais pas. Puis après, j'étais mort de rire. Quoi. Alors, c'est vrai qu'avec les micros coupés, on s'en rend moins compte. Mais.
Ah, mais c'est pour préserver la narration, vous savez, c'est important.
Mais c'est pas mal aussi pour celui qui raconte de ne pas savoir comment les autres réagissent. Je trouve que c'est un peu comme dans un oral en fait où tu es en train de passer, t'as aucun retour. Je trouve ça très intéressant finalement.
Bon, ça va là.
Moi, ça me change de mon cadre habituel où je raconte les histoires parce que je le fais directement face à un public et à un public d'enfants. Donc autant vous dire que quand ça leur plaît, ils explosent et tu peux plus raconter.
Bah, moi tout pareil que toi, sauf que c'est des geeks, donc c'est des enfants aussi quelque part.
Ouais. Mais par contre les enfants quand tu les accroches pas, ils te le font sentir très très vite aussi, et ça c'est encore plus déstabilisant.
À nous, c'est les trolls.
Je peux te montrer des conférences du Stunfest où Seb il fait pas le malin. Hein.
Après, est-ce que dans une conférence du Stunfest, on va t'interrompre pour te dire « Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes, madame ?»
Oui.
Alors, ça ne m'est jamais arrivé à moi directement, mais je l'ai déjà vu. Il y a eu des conférences qui étaient assez musclées, mais dont une d'ailleurs où je fais partie des gens qui interviennent du public vers la personne qui était sur scène. C'était, je suis en train de chercher son nom de famille, c'est Yann. Non, pas du tout. Non, il est thérapeute et je suis radicalement, mais en désaccord avec la majorité des choses qu'il dit, et justifier ça en fait comme parole d'évangile, comme s'il y avait eu des études. Et en fait, j'ai commencé en fait à juste douter du truc. Et dans le public, au bout d'un moment, quand j'ai pris le micro, j'ai fait pardon, mais quelles études, d'où ça sort, enfin, par qui ça a été validé, etc. Et la conversation est partie un petit peu loin quand même.
Pour moi, c'est argumenté. Parce que
ah oui, non, c'est jamais, c'était pas gratuit.
Voilà, c'est pas juste « Ah bah c'est nul ce que tu racontes
!» Non, ça c'est plutôt les auditeurs de Bagropoint en général.
Oh bah non, va pas nous aliéner. Certes, c'est pas la même écurie, mais ça arrive des amis quand même. Je leur parle tous les jours à ces gens-là.
Moi c'est des amis quand même, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des fois, au niveau de l'argumentaire, on est... je veux dire, Bagropoint versus toi n'était pas né de rien.
Ah, est-ce que tu peux rappeler le principe, parce que le nom est...
Alors Bagropoint versus mais... toi était une chronique que j'animais sur la première version du Pif de l'actu, où je répondais aux gens qui nous écrivaient, et c'est vrai que des fois il y avait des gens qui nous écrivaient de manière énergique, plus ou moins bienveillante, et puis des fois il y avait vraiment des gens, tu te disais mais Si vous détestez autant l'émission, pourquoi vous l'écoutez du coup? Mais en plus, vous perdez votre temps à nous écrire. Moi, j'avoue que c'est un truc qui m'a toujours perturbé. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais par contre, je prenais beaucoup de plaisir à leur répondre. Et a priori, au rire de mes camarades, c'était partagé.
Bon, c'est vrai, je dois le reconnaître que... C'est, parce que ça fait partie du jeu de baston. On est en train de digresser énormément sur un autre programme là, attention. Mais c'est du récit. Alors, bah, tu vois, c'est intéressant. Je voudrais rebondir là-dessus pour conclure. Peu importe d'où viennent les récits, les légendes, ce qui est important, c'est la manière dont on les raconte. Et je pense que ce soir, ça a été l'illustration parfaite de cette situation. Parce que, c'est pas finalement le fond des histoires, mais comment elles nous ont été amenées qui compte. Donc je pense que c'est ça qui fera qu'il y aura encore et toujours des récits à faire rentrer dans la légende. Et puis j'ai envie de vous dire, chers auditeurs, là, un chapitre s'achève, mais il en reste beaucoup à découvrir. Alors soyez patients, et qui sait, un jour, c'est vous qui forgerez une nouvelle légende.
Ah ouais.
Encore un grand merci à mes invités. Si vous avez des petites actus en ce moment, bon, bah, j'ai me dit, comme toujours, il a 50 actus, donc il nous dira ça après. Lise, alors, est-ce que tu as une actu à nous partager?
D'actu personnel, non, mais j'en profite pour vous parler d'un petit truc qui a été monté dans mon département il y a 3 ans et qui commence un peu à s'étendre dans ma région. Ça s'appelle le Ludisport. Ça a été créé par Thibaut Suchon. Et ça consiste à monter des équipes, soit dans des assos, médiathèques, ludothèques, ou qui veut en fait, pour s'affronter sur des jeux de société. Donc il y a trois jeux de société qui sont déterminés chaque année. Un jeu d'ambiance, un jeu familial et un jeu un peu plus compliqué. Et donc on s'entraîne on détermine les jeux en juin, on monte les équipes et on s'entraîne jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de janvier, on commence à faire des rencontres. Voilà, donc cette année c'était les jeux Adara, Dice Forge et Cash and Guns. Et chaque équipe a un nom absolument magnifique où il faut choisir un nom d'animal et un adjectif. Donc nous étions les loutres ébouriffées, n'est-ce pas?
C'est des noms de chaîne YouTube, ça.
Et donc voilà, ça commence à se développer un petit peu. Au départ, ils étaient 4 équipes. Là, on était 12 dans les Alpes du Sud et il y en avait aussi 4 ou 5 sur la Côte d'Azur. Et voilà, donc j'espère que pour eux, pour Thibaut, que ça continuera à se développer parce que c'est bien sympa. Donc si jamais vous êtes intéressé, il y a un site qui s'appelle la Fédération Française de Ludisport. Je t'enverrai le lien, Flash.
Tu m'enverras, ouais, on ajoutera ça en commentaire. Super.
Voilà.
Merci, Lizard. Jazz.
Moi toujours Péliprod avec mon pote Greg, et puis vous pouvez me retrouver là de temps en temps jusqu'au mois de décembre, même sur le podcast de Nanarologie, puisque je commente les films Resident Evil.
Alors ça, tu sais que moi je suis très client, je te l'avais déjà dit, et ça va être mon petit plaisir de l'été, plaisir voilà. Coupable certes, mais plaisir quand même. Bon Seb, alors là par contre je vais te mettre une limite de temps là parce que sinon tu as
en fait ça va durer plus longtemps que l'émission de base quoi.
C'est ça. T'as droit à 2 podcasts. Alors,
je vais faire très très court. On vient de sortir notre 11e épisode de la fin absolue du monde où on parle bouffe. Donc mes comparses ont réussi à me faire parler nourriture dans un podcast que je n'avais jamais fait. Regarder des émissions de autour de la nourriture, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Donc c'était un exercice totalement hors de mes compétences naturelles. Et donc j'étais très content de participer à ça. On a Périphérique 2 qui continue sa sortie quasi mensuelle où on parle musique en famille, et c'est vraiment une des émissions avec lesquelles je prends le plus de plaisir à monter et à diffuser, où on a d'excellents retours. Et puis j'ai une émission mensuelle qui s'appelle Timeline 199 où je parle des éléments du MCU, qui pour l'année prochaine exclusivement, et pour rattraper un petit peu les multiples choses qui se passent dans l'univers Marvel, en fait ce sera une sortie hebdomadaire. Donc il y aura un podcast par semaine qui viendra à partir du mois de septembre. Et puis je bosse ardemment sur le prochain Tatémono et le prochain Rhythm Fighter.
Ok.
Bien occupé, dis programme. Donc.
Ouais, balèze.
Alors,
il y a des trucs qui vont arriver.
Le Marvel 199-999, je vous le recommande si vous êtes fan de Marvel ou en tout cas intéressé par le lore.
Ah oui, oui.
Parce qu'en fait, y a une espèce de bible documentaire autour de ces récits. On reconnecte avec notre sujet. Et qui montre que... Alors, des fois, on se dit, ouais, leur truc, c'est incohérent, il y a des défauts de trucs, de machin, mais... faut comprendre que Marvel, il se traîne une timeline sur 300 000 ans et où il y a je sais pas combien de personnages qui interagissent, il y a des strates de récits qui ont des logiques, enfin c'est hyper intéressant cette approche là si je devais vous le simplifier, c'est leçon d'histoire, sauf que vous remplacez Stephen Bern par Watu.
déjà
c'est plus intéressant, mais et c'est une approche qui est intéressante parce que c'est une autre façon d'aborder les récits Marvel qui sont des épopées à chaque fois, alors que là on a quelque chose qui se veut avec toutes les limites que s'impose le fait que c'est des trucs imaginaires, mais presque historique, factuel. Il n'y a pas de positionnement idéologique sur oh là là, Thanos c'était méchant ce qu'il a fait. Il l'a fait, c'est comme ça et basta. Voilà. Donc, si vous êtes amateur de récits et de récits Marvel, c'est une façon très intéressante déjà de découvrir le passé éditorial de la Maison des Idées, comme ils aiment à s'appeler. Et puis d'avoir un petit podcast, je dirais peut-être plus facile à consommer parce que c'est moins long que ça va. C'est un très petit format en général.
Donc, c'est tout. Oui, c'est dans tous les cas de figure, l'émission la plus longue doit durer 4 minutes, je crois, si je dis pas de bêtises, et en général c'est moins de 2 minutes.
Ouais, that's what she said. Elle était facile. J'en avais fait une dans le même genre en antenne. Voilà, je vous avoue tout. Et puis voilà. Encore merci à nos légendaires, encore merci à vous de nous avoir écoutés. Oui, merci.
Merci à vous deux et merci à toi de nous avoir invités.
Voilà, j'espère que vous avez aimé ce pilote et qu'il y en aura plein d'autres. Donc, pour l'instant.
Ah ouais, faut que je trouve un sujet, moi, maintenant, zut.
Ah oui, c'est vrai. Oh, tu fais bien de me rappeler. Oui, tu dois trouver le thème, tu dois nous donner le thème de la prochaine émission. Alors, si tu l'as pas là dans les 10 secondes, c'est pas grave, mais c'est toi qui choisiras et on l'annoncera sur le portail.
Vous préférez encore un thème sur une personnalité ou un truc un peu plus large?
Ah bah non, on va pas t'aider.
Ah non, mais moi, c'est plus fou parce que j'ai déjà plein d'idées.
On te laisse te débrouiller.
En fait, t'as pas compris qu'ils ont fait exprès de perdre pour ne pas se taper cette corvée-là. N'était qu'un habile complot.
Je me vengerai. Moi, je pense que t'as déjà une idée de ce que je pourrais choisir en plus.
Oui, mais oh, ça serait tellement réducteur. Je sais que tu ferais exprès pour me titiller. Chers auditeurs, on va finir notre petite conversation là. On va pas vous retenir plus. Encore merci de votre écoute. Vous nous retrouvez donc sur tous les programmes de top5.fr, donc la séance de l'invité. Vous avez aussi le Topcast qui a signé son dernier épisode de la saison avec Steven Seagal. Incroyable. Là aussi, la légende. On était vraiment dans la thématique. Et on vous retrouve très prochainement. Excellente fin de journée ou soirée, selon votre emplacement dans le continuum espace-temps. À très bientôt.
Des bisous.
Bisous, salut.
Au revoir, à bientôt.